Il est 7h en ce mardi 28 octobre. J'espère que tu as bien mangé, que tu t'es bien levé. Car il est l'heure d'aller bosser. Malheureusement ou heureusement, bref, c'est un bon début de journée.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Il est 7h, l'heure de s'informer. Oui, j'ai fait que des rimes en « et » avec Ludovic Turin. Bonjour Ludovic.
Très stylé. Bonjour Johan, bonjour à tous. La mobilité transfrontalière sera au centre d'une table ronde ce jeudi à Port-Valais, à l'initiative de Chablais Région et des communes françaises. Responsables politiques et partenaires techniques franco-suisses arborderont les défis liés à la modernisation du trafic routier, ferroviaire et lacustre régional. Plus de 4000 frontaliers franchissent chaque jour la frontière de Saint-Gingolph, faisant de la fluidification du trafic sur ce tronçon, un enjeu majeur pour l'économie chablaisienne. De nombreux projets d'importance sont prévus ces prochaines années pour décongestionner le tronçon. Norbert Dufray, directeur de l'association Chablais Région.
Sur la problématique ferroviaire, il y a bien sûr la ligne dite du Tonkin, la ligne Sud-Léman. Chablais Région, l'État du Valais, travaille à sa réhabilitation avec les partenaires français plutôt sur des horizons à partir des années 2030. Et puis, il y a tout un travail qu'on veut faire au niveau de Chablais Région sur les plans mobilité entreprise, sur la problématique aussi du covoiturage. Et évidemment, au niveau lacustre, on peut se poser la question s'il y a quelque chose qui peut être développé en termes d'offres pour ces prochaines années, avoir une amélioration de la situation sur cette problématique de mobilité.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo. Déjà saturé, la route reliant la France à Montais devrait voir son flux s'intensifier ces prochaines années en raison de la suspension du train entre Saint-Gingolph et Le Bouvray pendant 2 ans pour travaux, ainsi que de la réduction des liaisons lacustres de la CGN jusqu'en 2027. La première édition de la quinzaine du livre suisse commence cette semaine et se tient jusqu'au 9 novembre. La manifestation est organisée par la fêtière des éditeurs, diffuseurs et libraires romans, Livre Suisse. Son objectif est de mettre en valeur les maisons d'édition et auteurs helvètes dans les 17 librairies romandes participantes. Dans la région, la librairie La Fontaine à Vevey organise une série d'événements et met dès aujourd'hui une vitrine avec des titres suisses en valeur. Pablo Tuller, gérant de la librairie Veveyzane, au micro de Valérie Favre.
La vitrine, c'est vraiment une occasion de montrer aussi la richesse et la diversité, la bibliodiversité, si je puis dire, de cette édition helvétique. Et puis, ça permet aussi de montrer qu'il n'y a pas que de la littérature ou de la poésie qui est éditée en Suisse, mais il y a aussi des essais, de la bande dessinée, des livres pour les enfants. Il y a vraiment tout le spectre de la production livresque qui est couvert par les éditeurs de notre pays. Donc, il y a ça. Et puis, plus qu'un bilan, c'est aussi l'occasion pour nous à la fois d'annoncer les différents événements qui auront lieu tout au long de cette quinzaine, et puis de mettre aussi en avant tous les livres qu'on a aimés et qu'on a lus et qu'on a encore envie de défendre des auteurs suisses.
Et à noter que le Baobab et Zalactoré, deux librairies de Martigny, prennent également part à l'action. Les partenaires de la santé en Suisse ont adopté hier à Berne un paquet de 38 mesures qui permettront d'économiser 300 millions de francs en 2026 sur la facture globale de la santé. C'est presque 1% du montant global des primes versées. La qualité des soins ne sera pas affectée. C'est un succès pour la ministre en charge du Dicaster qui a mis autour de la table les partenaires de la santé. Une bonne formule selon Elisabeth Baumschneider.
Les personnes qui sont en train de débattre et discuter de l'organisation de notre système de santé et de son financement sont partants et sont des partenaires fiables pour pouvoir aborder des thématiques aussi sensibles que justement la maîtrise des coûts.
300 millions, une étude commandée par l'OFSP il y a quelques années estimait qu'on pouvait aller jusqu'à 20%. Est-ce que c'est l'objectif à moyen terme ?
Je crois qu'on n'est pas dans des milliards et des milliards d'économies parce qu'il faut aussi être raisonnable avec le vieillissement de la population, avec les nouveaux traitements, avec les comorbidités. Par contre, d'avoir cette capacité de générer 300 millions minimum, il y a aussi d'autres mesures qui ne sont pas encore corrélées à une économie potentielle. C'est vraiment un pas que je souligne et que j'apprécie à sa juste valeur. Et l'objectif, c'est surtout aussi de continuer à élaborer des mesures, à regarder lesquelles sont les plus pertinentes et ensuite que moi, j'assume mon travail de nature politique.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. À l'étranger, un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé hier soir la ville de Sindirigi, dans l'ouest de la Turquie. La secousse, ressentie jusqu'à Istanbul et Izmir, n'a pas fait de victimes, selon les autorités. Mais 3 bâtiments déjà fragilisés se sont effondrés. Le pays reste marqué par de nombreux drames sismiques, dont celui de février 2023, qui avait fait plus de 53 000 morts dans le sud-est du pays. Et puis le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé hier la rupture de l'accord de son parti avec les socialistes du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Cette décision prive le gouvernement de sa majorité parlementaire. Depuis Perpignan, où il vit en exil, Carles Puigdemont a dénoncé un manque d'engagement de Madrid envers la Catalogne et a affirmé que son parti passerait désormais à l'opposition. Si la base du parti valide cette rupture, Pedro Sanchez pourrait se retrouver incapable de faire adopter un budget ni de gouverner efficacement, sans pour autant faire face pour l'instant à une motion de censure. Enfin du sport, pour terminer, Johan Le Fleur vient de conclure la plus belle saison de rallye de sa carrière. Le pilote bellerin a officialisé son deuxième rang au championnat suisse samedi sur le rallye du Valais. C'est la première fois que le Chablaisien se hisse sur le podium national. De son propre aveu, jamais il n'aurait imaginé en être capable. Johan Le Fleur.
Non, clairement pas. Même en début d'année, j'aurais jamais pensé. Et voilà, il y a 10 ans, je m'en souviens que j'étais avec ma petite moto 50 cm cube à filmer les voitures de rallye et à espérer un jour pouvoir faire partie d'eux. Et puis là, je me retrouve dans la cour des grands en étant deuxième et en ayant fait un rallye du Valais correct.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet hier soir dans notre émission du 17h Max Sport qui est à retrouver tous les lundis.